Entre vous et nous,
l'émission pour bien vivre au quotidien.
Et c'est parti entre vous et nous. Dorénavant, nous avons rendez-vous le lundi entre 12h30 et 13h. À mes côtés aujourd'hui, Christian Darbelay, conseiller en énergie chez Genedis. Bonjour Christian.
Bonjour.
Et puis également José Fernandez, qui est conseiller en assurance pour la Zurich Assurance. Bonjour.
Bonjour Caroline.
Alors on va parler d'énergie, mais pas que, on va parler d'assurance également. Tendez l'oreille, vous verrez, on va apprendre plein de choses. Nous sommes en 2025 et il y a de nouvelles lois qui vont s'appliquer, notamment sur l'énergie en Valais. Alors le canton de Vaud s'y est déjà collé, mais pour le Valais c'est tout récent. Christian Darbelay, vous êtes conseiller en énergie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette nouvelle loi ?
Alors effectivement, la nouvelle loi sur l'utilisation rationnelle d'énergie a été mise en vigueur au 1er janvier, est entrée en vigueur au 1er janvier 2025 pour le canton du Valais. On en avait déjà parlé à plusieurs reprises. Et là, cette fois-ci, on est vraiment dedans. Il y a des choses qui ont changé. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a beaucoup de nouvelles restrictions au niveau des constructions des bâtiments. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on fasse, parce que c'est assez large comme domaine, qu'on le fasse en deux fois. Qu'on fasse cette fois-ci aujourd'hui tout ce qui a changé, ce qu'il y a de nouveau pour les bâtiments neufs. Et puis dans une deuxième émission qui est prévu, je crois, au mois de mai.
Exactement.
On fera ça pour la partie rénovation qui est encore un peu plus compliquée parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir.
Quand on parle de nouvelles constructions, vous intervenez à quel moment ? Lors des plans ou à quel moment on intervient en tant qu'expert ?
Alors, un expert CECB ou un expert qui est en conseiller en énergie des bâtiments intervient dès le départ au niveau de la construction du bâtiment parce qu'on appuie les architectes et les particuliers dans le cadre de la mise à l'enquête du bâtiment.
Donc dans la réflexion aussi ?
Dans la réflexion au départ, c'est bien sûr pour savoir qu'est-ce qu'on va mettre comme chauffage, qu'est-ce qu'on va mettre comme isolation, comment on va orienter la maison peut-être aussi. Il y a plein de choses qui sont intéressantes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des changements qu'il y a eu par rapport à avant, il y a plusieurs domaines. Il y a le domaine de l'enveloppe du bâtiment. On parle de l'isolation, des fenêtres, de la toiture. Là, on a des choses qui ont changé. Alors, c'est pas très compliqué. On a simplement demandé aux gens d'isoler plus leur bâtiment. Avant, on avait la possibilité d'utiliser des isolations qui avaient un certain degré de déperdition d'énergie. C'était 0,2 watts par mètre carré. Et puis aujourd'hui, on diminue cette déperdition et on doit justifier d'une déperdition de 0,17 watts par mètre carré, ce qui fait qu'on doit augmenter l'isolation du bâtiment.
Si on parle des bâtiments style Minergie, qui ont justement, en même temps, j'ai entendu dire que ces bâtiments-là, ils sont trop...
Non, ils sont pas trop isolés.
Ils sont pas trop isolés.
La nouvelle législation aujourd'hui, elle pratiquement tous les bâtiments seront selon les normes Minergie.
Okay.
Donc on les appelle pas Minergie parce que pour avoir Minergie, il faut une ventilation contrôlée dans le bâtiment pour justement éviter la condensation dans les bâtiments.
Ouais,
on dit
ça,
qu'on est
problème.
Trop isolé, mais c'est pas trop isolé, on est trop étanche. Donc il faut aérer les bâtiments. Donc la nouvelle législation, elle dit vous devez mettre une certaine quantité d'isolation. Typiquement, j'ai fait un petit calcul là, si on met de la laine de verre autour de notre bâtiment, avant c'était 16 cm, maintenant il faudra mettre 18 cm d'isolation. Alors c'est pas un mal pour le client, parce que ça va diminuer son besoin en énergie.
Donc c'est un investissement au départ pour avoir moins de frais par la suite.
Exactement, mais c'est un investissement obligatoire.
Mm-hmm.
Donc avant, on conseillait les gens de faire un bâtiment Minergie, de mettre plus d'isolation. Aujourd'hui, la législation nous impose d'avoir cette isolation supplémentaire.
Donc il faut bien faire ses calculs.
Par contre, au niveau de la ventilation contrôlée, pas d'obligation pour le moment.
Alors, si on fait un bâtiment Minergie IP un Martigé, oui, il faut l'avoir.
Mais par rapport à la nouvelle norme.
Non, par rapport à la nouvelle norme, c'est pas nécessaire. On a toujours la possibilité de ventiler le bâtiment par l'ouverture manuelle des fenêtres ou des choses comme ça.
Ok.
Ensuite, on a vu l'enveloppe. On a la partie production de chaleur, qui est la partie qu'on utilise pour chauffer l'eau chaude et le bâtiment. Donc là, avant, on avait la possibilité encore d'utiliser des énergies fossiles l'année passée.
Donc quand on dit énergie fossile, c'est mazout et gaz.
Okay. Exactement. On avait encore cette possibilité-là. On devait justifier de 20% d'énergie renouvelable l'année passée. Aujourd'hui, c'est fini. À partir du 1er janvier 2025, toute nouvelle construction, on n'a plus du tout la possibilité de recourir au gaz ou au mazout pour chauffer le bâtiment.
Donc pas de citerne.
Pas de citerne à mazout, plus de cheminée, plus d'entretien. C'est le paradis, on dira.
Donc pour les bâtiments. Que du solaire et puis pompe à chaleur.
Solaire, pompe à chaleur ou bois. Donc il y a les trois énergies, c'est des énergies renouvelables, on a la possibilité. Le chauffage électrique était déjà interdit avant, il est toujours interdit maintenant. Donc chauffer un bâtiment à l'électrique, chauffer l'eau électrique, c'est interdit. Et puis on a deux choses qui se sont rajoutées par rapport à ça, c'est la production propre d'électricité. On a l'obligation aujourd'hui, quand on construit un bâtiment neuf, pour les particuliers et les PPE. Après, pour les autres catégories de bâtiments, c'est moins important. Il y a des dérogations, mais là, pour les bâtiments neufs, on doit produire une partie de son électricité sur le toit de sa maison.
Ouais, c'est ces fameuses électricités qu'on peut revendre si on en a trop.
Voilà, c'est la partie production solaire sur notre toit. Alors, on a la possibilité, il y a des dérogations, d'acheter des panneaux solaires sur la maison du voisin, si le voisin construit en même temps. Mais là, voilà, je conseille quand même aux gens, ils n'ont pas le choix, de toute façon, de remettre 20 watts par mètre carré, ce qui représente pour un bâtiment de 150 mètres carrés, à peu près 3 kilowatts de puissance, ce qui représente 7-8 panneaux et 12 mètres carrés de panneaux solaires obligatoires. Du moment qu'on fait ce genre d'installation, on ne va pas mettre 3 kilowatts, on va mettre 5, 6, 7 kilowatts en fonction des besoins. Et ça peut, mais on a cette obligation-là. Et puis, on a aussi, par rapport à cette nouvelle loi, on va tenir compte du refroidissement. Jusqu'à l'année passée, on avait la possibilité de refroidir notre bâtiment en justifiant de certaines choses. Par contre, à partir du 1er janvier 2025, le refroidissement va devenir une phase importante dans le calcul du bilan du bâtiment et va péjorer les bâtiments.
Je crois qu'il avait une question.
Oui.
Alors, c'est une question par rapport à ce que vous avez dit précédemment. Oui. Une batterie, est-ce que c'est une obligation d'en avoir une pour stocker, utiliser l'électricité au bon moment ou pas?
Non, la batterie n'est pas obligatoire. Okay. La production est obligatoire. Okay. Par contre, la batterie, c'est un domaine qui est assez, assez complexe parce qu'une batterie, elle va pouvoir stocker une certaine quantité d'énergie. On va pouvoir stocker de manière journalière ou sur 2 ou 3 jours, mais pas plus.
En plus, donc, ça coûte une blinde, ces batteries.
Ça coûte très cher.
De moins en moins.
Et puis, voilà. Après, voilà, la batterie, c'est un domaine qu'il faudrait presque une émission pour discuter.
On aura un sujet prochainement. Juste pour le bois, ça pollue aussi beaucoup, non, le bois?
Alors le bois, oui, ça pollue. Alors le bois, il est subventionné pour la partie, pour tout ce qui est à une certaine altitude. En plaine, il n'est pas subventionné pour les rénovations, je parle, mais pour le bâtiment neuf, on a la possibilité de le mettre. Et on voit arriver qu'il y aura à un moment donné des filtres à mettre sur les cheminées ou des choses comme ça. Pour les gros bâtiments, il faut mettre des filtres. Et puis voilà, mais le bois, c'est une alternative. Mais on pense, nous, que la majeure partie des nouveaux bâtiments qui sont construits aujourd'hui vont être faits avec des pompes à chaleur. Bien isolées, une pompe à chaleur. Et là, on vient sur la partie...
refroidissement.
Le refroidissement, ça vient un gros problème, parce qu'avec le bois, on ne peut pas faire de refroidissement. Avec les pompes à chaleur, on peut le faire. Par contre, il y a une nouvelle chose qui rentre en vigueur. Jusqu'à présent, on tenait compte de valeurs limites pour l'enveloppe du bâtiment. Aujourd'hui, en 2025, on tient compte de valeurs limites pour l'ensemble du bâtiment, c'est-à-dire la production de chaleur, la production d'eau chaude, la ventilation et le refroidissement. Et on est limité en termes de quantité d'énergie qu'on a pour faire ce genre de choses. Si on fait un bâtiment avec une pompe à chaleur, avec une ventilation, et puis l'eau chaude, ça pose pas de problème. Par contre, dès qu'on commence à mettre une clim ou un refroidissement, simplement un refroidissement sur la pompe à chaleur, on doit justifier de calcul. Et là, on est limité en termes d'énergie qu'on a besoin pour nos bâtiments. Ce qui fait qu'on aura, si on veut vraiment avoir un refroidissement dans le bâtiment, il faudra vraiment, vraiment l'isoler, avoir une pompe à chaleur hyper performante, et puis une ventilation contrôlée.
Pour la néophyte que je suis, quand on parle de refroidissement de bâtiment, concrètement, on entend quoi ?
Alors, c'est soit du free cooling, c'est-à-dire qu'on fait circuler de l'eau froide dans le sol du bâtiment ou on fait circuler de l'eau chaude. Donc, on fait circuler de l'eau froide. Alors, pas trop froide pour éviter la condensation. Donc, on a des problèmes de condensation.
Enfin,
donc, on
peut chauffage le faire au sol, là.
Voilà, exactement. Ou alors, on a la possibilité de faire du refroidissement avec des clims ou des pompes à chaleur réversibles RR qui font de la climatisation. Ça, c'est un domaine aussi, de nouveau, il faudrait presque avoir une voire deux émissions pour discuter à fond de ce problème-là. Mais ce qu'il faut retenir là-dessus, c'est qu'on a vraiment la possibilité, on doit faire des calculs pour arriver à justifier de mettre un refroidissement dans une maison. Ce qui est, à mon avis, aujourd'hui, pas une super bonne chose, parce que si on fait un bâtiment qui est bien isolé, bien orienté, bien ventilé, il n'y a pas besoin de le refroidir, parce qu'on aura la température qui reste agréable à l'intérieur du bâtiment.
Il faut s'encadrer d'experts pour être sûr d'être dans la bonne voie.
Exactement.
Concernant ces pompes à chaleur, si tout le monde met des pompes à chaleur, on risque pas d'avoir un refroidissement du sol qui peut être néfaste?
Alors, si on fait des pompes à chaleur au haut, parce qu'il y a plusieurs types de pompes à chaleur, soit on fait de la géothermie, ça ne pose pas de problème. Si on va chercher l'eau dans la nappe, là, ça peut poser problème. Et l'État du Valais a mis en place une carte sur laquelle on peut aller voir si on a la possibilité de mettre en place des pompes à chaleur ou pas, parce que effectivement, on a un refroidissement de la nappe qui se fait et ça peut poser problème. Donc, s'il y a déjà beaucoup de pompes à chaleur qui sont posées dans la nappe, on ne pourra pas le faire. Par contre, une pompe à chaleur en pleine, une pompe à chaleur RO, ça fonctionne vraiment bien. Il y a moins d'entretien et puis l'investissement. Voilà, exactement. Il y a moins de frais à l'installation. Et il y a peut-être le problème du bruit. Quoique les nouvelles pompes à chaleur aujourd'hui, elles arrivent avec des coefficients de bruit qui sont très très bons. Et il faut juste tenir compte de ça. Mais autrement, non, pompes à chaleur haut, ça fonctionne très bien. Si j'ai encore un petit moment, on peut parler qu'il y a des dérogations Donc, si vous avez un bâtiment qui est Minergie, Minergie P, par exemple, ben, vous avez la possibilité. C'est clair que là, tous ces calculs se font en amont et vous pouvez déposer votre mise à l'enquête sans souci. Si le bâtiment est en classe AA au niveau du CECB, on en a parlé déjà, le CECB, c'est l'étiquette énergétique du bâtiment. Si vous êtes tout au sommet en classe A, vous avez la possibilité de déposer votre mise à l'enquête sans problème. Et puis, je voulais dire encore qu'il y avait des solutions standards, justement. Mais les solutions standards, où on n'a pas besoin de faire de calcul, c'est s'il n'y a pas de refroidissement. Donc, si on n'a pas de refroidissement, si on peut justifier avec la pompe à chaleur, parce qu'alors le problème, il est là aujourd'hui, c'est que toutes les pompes à chaleur, elles arrivent prêtes pour faire du refroidissement. Donc, il faudra qu'on justifie par un certificat ou par un plombage ou par des choses-là, qu'on ne fait pas de refroidissement. Et là, on pourra utiliser des solutions standards pour faire le calcul du bilan du bâtiment.
Ben, merci en tout cas pour tous ces conseils et toutes ces informations concernant cette nouvelle loi sur l'énergie qui est appliquée à partir de ce 1er janvier, donc déjà en Valais. Christian Darbollet, vous êtes conseiller en énergie chez Genedis. On conseille à tout un chacun de s'encadrer d'experts pour être certain de ne pas se mettre dans le mur.
Alors aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est ça. Quand on construit un nouveau bâtiment, déjà un architecte et puis après un conseiller en énergie des bâtiments qui va faire la partie, tout ce qui est chauffage et eau chaude sanitaire et enveloppe.
José Fernandez, vous voulez dire ?
Oui, pour donner un ordre d'idée de grandeur plutôt. Combien coûterait une étude pour un nouveau bâtiment, une maison individuelle, un particulier qui veut être au top au niveau énergétique et qui fait appel à Genedis?
Alors, Genedis, nous, on fait plutôt du contrôle pour les communes. On ne réalise pas ce genre de travail. Donc, il y a des bureaux d'ingénieurs, des bureaux CVS qui font ce genre de travail. C'est des plus-values qui sont de l'ordre entre 1500 et 2500 francs pour faire l'étude énergétique. Ça peut aller un peu plus loin. Si on veut aller sur un truc Minergie, c'est quand même un peu plus compliqué. Donc là, il y a différents domaines. Il faut demander des offres dans les bâtiments. Mais ça vaut vraiment la peine. Le faire.
Oui, bien
ça
sûr.
Vaut vraiment, vraiment la peine. Parce qu'on part sur un bâtiment sur 50 ans. Un bâtiment, il aura une durée de vie de 50 ans. En règle générale, on commence à faire des travaux à partir de 35-40 ans. Mais on a 50 ans devant nous et on va consommer de l'énergie pendant 50 ans. Donc, profitons de faire quelque chose de bien. Peut-être mettre moins sur la cuisine et puis sur le carrelage. Et puis mettre un peu plus sur l'enveloppe et puis le chauffage de son bâtiment.
Le massage est passé.
Merci.
Christian Darbollet, on aura le plaisir de vous accueillir pour parler nouveau de législation. Mais là, pour les bâtiments qu'on va
rénover.
Rénover.
Exact.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.